Allô, vous nous entendez en ligne? Ouais, donc c'est bon. Ok, et vous voyez les diapos? Ok. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Mohamed, qui est directeur de recherche au BRGM et qui est directeur adjoint du ISTO à Orléans, et qui est, il va nous parler aujourd'hui de la plateforme au ZNS.
Merci Marwan. Merci pour l'invitation et c'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui à ITES. J'ai moi-même fait ma thèse dans la région sur Soultz-sous-Forêt et donc j'ai des liens récurrents avec les différents labos à Strasbourg, notamment sur les aspects transport réactif et couplage. Ça avait commencé les années 90 sur la géothermie et après ça s'est poursuivi sur différents aspects, notamment tout ce qui est base de données thermodynamique pour les systèmes salés notamment, encore une fois pour la géothermie, mais aussi pour les procédés industriels, phosphate, lithium, l'extraction des métaux, des saumures. Et depuis une dizaine d'années, on a réfléchi à comment améliorer les couplages entre les processus, notamment par rapport à tout ce qui est transfert réactif à travers la zone non saturée. On a commencé la réflexion bien avant l'individualisation des concepts de la zone critique. En tout cas, elle n'était pas très partagée parce que c'était en 2001 que le NSF a proposé le concept de la zone critique. Mais c'était pendant 5-6 ans, c'était quelques papiers, ça, c'était pas bien. En fait, les gens n'avaient pas encore, les labos n'avaient pas encore bien intégrer ce concept. Et nous, on avait la réflexion autour de ces transferts, des couplages, notamment les altérations de la partie régolithe, sol, sous-sol, jusqu'à l'aquifère et jusqu'à la partie à la roche-mère. Et le premier workshop international qu'on avait organisé, c'était en 2011. On était 60-70 personnes. Il y avait pas mal, je sais pas, 3-4 labos américains, des Suisses, des Allemands, mais aussi et surtout des labos français pour essayer de voir qu'est-ce qui manquerait au modèle pour les couplages et quels sont les signaux les plus exprimés pour chaque type d'application, aussi bien, à l'époque j'étais que BRGM, aussi bien pour des applications en service public, industriel, mais aussi en recherche fondamentale. Et en 2016, on a réussi à avoir un projet, un programme régional qui s'appelle PIVO, Région Centre-Val de Loire, et ces plateformes pour l'innovation, je me souviens plus, et c'est tout ce qui est technologie de monitoring environnemental et énergétique. C'était un programme doté de 16 millions d'euros, et nous, on a proposé aux ZNA, c'était l'opportunité. On avait largement sous-estimé mon budget, mais c'était un détail. Et après, au fur et à mesure, il y avait d'autres mécanismes qui nous ont aidés à aller au bout de nos ambitions. Et le premier concept, c'était juste avoir une grande fosse pédologique dans laquelle on peut mettre plein de capteurs. Mais au fur et à mesure, quand on a identifié le site sur lequel on pourrait se faire accepter, parce que généralement, les agriculteurs n'aiment pas trop qu'on s'installe à côté d'eux. Et c'était ça. Après, peut-être 2 ans, on les a convaincus, on fait plein de schémas. Et en même temps, l'intérêt aussi à l'époque, c'était le fait qu'il y avait déjà, ce sont deux propriétaires de cette parcelle. C'est une parcelle, on va la voir, à peu près 2400 mètres carrés. Donc, elle est sur deux propriétés. Et on a réussi à les fédérer, on a signé avec, on a acheté, en fait, la parcelle, mais vous allez le voir, il est en plein cœur d'un champ agricole. Et l'idée, justement, c'était d'avoir ce continuum entre le sol, même l'atmosphère, le sol, la zone vadose, la zone saturée, et notre cas, c'est pour la nappe de Beauce. Donc, l'objectif de ce dispositif, c'est d'essayer de comprendre comment les contaminants parviennent ou pas jusqu'à la nappe selon l'ampleur et la réactivité de cette zone non saturée. Des fois, elle a des capacités épuratrices et parfois pas du tout. Et du coup, on se trouve avec des concentrations assez élevées en nitrates typiquement et aussi mis volontairement dans un champ où on a des nitrates très élevés. C'est, vous voyez, il y a un spot, c'est à Villomblain, à 45 km au nord-ouest d'Orléans. Et puis, on a par la même occasion des concentrations élevées en pesticides. Si on reprend un peu de recul pour essayer de voir quelle est la démarche qui nous permettrait progressivement d'améliorer, on l'oriente toujours pour pouvoir donner de la cohérence à l'analyse. La meilleure façon, c'est de partir sur des modèles. Sinon, on va éternellement continuer à mesurer. Si on ne mutualise pas par des modèles, on peut refaire 1000 fois le même type de mesure et le même type d'écart à une réalité si on ne la teste pas par des aspects théoriques. Donc, c'est pour cela qu'on a le concept prédictif, les géosciences prédictives, aux sciences prédictives, pardon, qui nous permettent à chaque fois de tester les modèles, qu'est-ce qu'on est capable de reproduire. Et là, c'est orienté pour tout ce qui est gestion de la ressource en eau et les défis environnementaux. Et là, on a toutes les échelles qu'il faut regarder. Donc, il faut avoir un système qui nous permet d'être caractérisé le plus simplifié possible avec des techniques très, très efficaces et innovantes. Ensuite, il faut essayer de complexifier les échelles pour faire évoluer nos analyses vers des systèmes compliqués par nature. Et on a des bases de données qui peuvent être de deux sortes. Des bases de données ad hoc spécifiques à un site, parce qu'il y a tellement de spécificités de ce site qu'on ne peut pas les rendre génériques. Mais par contre, ce qui nous intéresse à ce stade, c'est tout ce qui est générique, c'est-à-dire les transférables à d'autres sites. Donc là, ça nous permet d'avoir un concept général avec ce qu'on appelle en anglais les basic sciences, les sciences de base, qui sont en principe pas trop dépendantes du système. Même s'il y a des particularités, elles vont nous aider à démontrer la cohérence de nos façons de construire ces modèles prédictifs, mais pas tellement dépendantes du site. Et ensuite, on va essayer d'aller encore plus en aval sur des cas précis avec des fois des traitements statistiques, des tests sur des observables qui sont déjà assez intégrateurs. Et là, on a des modèles prédictifs avec deux héritages. Un héritage qui est très générique et acide en quelque sorte, même si les données sont acquises sur un site, mais ça veut dire qu'elles sont suffisamment fondamentales et génériques. On peut les utiliser sur d'autres sites sans trop de risques de cet effet d'imperfection qu'on aurait pu avoir comme héritage. Par contre, le deuxième volet, c'est une adaptation au site spécifique. Cette fois-ci, chaque particularité d'un site va être prise en compte pour pouvoir exploiter ce modèle. Donc, en gros, quand on regarde ça, ça part de la nano-microfluidique jusqu'au bassin versant, voire aux aquifères qui peuvent avoir plusieurs kilomètres de diamètre. Et c'est les géosciences prédictives. Donc là, j'ai donné un peu le cas de la géothermie à gauche, c'est la géothermie bouillante, c'est la température est de 264 degrés, un système volcanique assez réactif, on a beaucoup de dépôts de sulfure de fer, de sulfure de métaux, et on a de la corrosion, c'est un fluide relativement corrosif, et à droite, on a un bilan hydrique d'un bassin versant. En montrant surtout les différentes composantes à essayer d'affiner avec les différents dispositifs. C'est un peu, aux ADNAS, c'est comme s'il était au milieu pour essayer de prendre en compte tout ce qui se passe autour de cette unité de raisonnement. Donc maintenant, on va aller voir qu'est-ce que le concept de la critique zone, de la zone critique, pardon, demande d'aligner. Donc on voit qu'il est déjà très multidisciplinaire, des climatologues, des gens de la chimie de l'atmosphère, de la bioclimatologie, l'écologie, la pédologie, l'hydrogéologie, la géologie et le côté numérique pour essayer de tester la capacité à mémoriser et à mettre en mutualisation ces connaissances. On en a une centaine à peu près sur la planète. Les données sont assez hétérogènes, mais souvent chaque équipe autour de ces sites d'observation pour enrichir le concept de la zone critique fournissent des données, les partagent. Il y a des systèmes de partage des données interopérables, plus ou moins, ils sont pas toutes interopérables, ça dépend, mais c'est bien réparti au niveau planétaire. Et puis nous, avec OZNS, on a un angle de regard un peu particulier, puisqu'il y en a aucun qui s'est proposé d'aller dans cette direction. Généralement, c'est des petits bassins versants et qui sont bien instrumentés et qui continuent à l'être. Donc, vous avez à gauche le concept OZNS, c'est d'avoir un puits et qui nous permet, qui nous offre une grande agilité pour aller forer dans toutes les directions à chaque fois que l'on juge utile. Et vous avez en bas une numérisation de celle-là, elle est effective, c'est pas seulement un concept, c'est comme ça qu'on a numérisé, je vais vous montrer après comment on l'a fait, la surface du puits pendant le creusement. Donc c'est, comme je disais, c'est un site qui se trouve à pas loin de Châteaudun, à Villomblain, c'est un petit village, 300 habitants, très agricole, ils alternent le maïs, le colza, le blé, c'est essentiellement les trois. Et on a le site d'observation qui est de cette forme, et vous avez autour 8 forages essentiellement pour le moment, utilisés essentiellement pour la géophysique, dont 3 équipés en fibre optique. Là, c'est en bas, c'est la configuration actuelle. Elle est couverte par un hangar, donc on a installé un hangar. Et en haut, c'est le bardage que c'est Bouygues qui a fait les travaux pendant le creusement pour sécuriser le creusement. Et après, on l'a construit dans l'autre sens avec des claveaux, comme vous voyez. Vous avez ici des claveaux ici. Qui est de construction, c'est des carbonates du Comblanchien qu'on a ramené de Dijon. La raison, c'est tout simplement, il fallait pas ramener un objet géologique qui est de composition minéralogique et chimique suffisamment différent. Donc là, c'est des carbonates à 99% et c'est très très peu perméable aussi. Et puis mécaniquement, c'est très résistant. Donc au niveau objectif, c'est d'avoir maîtriser ces transferts à travers un système réactif avec des roches, des fluides, des racines, mais surtout des micro-organismes qui se rendent un peu service l'un à l'autre dans un continuum depuis l'atmosphère, puisqu'on a des gaz qui peuvent partir, mais aussi, comme vous le savez, on estime la contribution de l'activité agricole dans les émissions de CO2 entre 14 et 20%. Donc c'est important d'essayer de prendre cette composante. On a pas mal de sites, notamment quand il s'agit aussi des tourbières, qui sont des vrais spots, qui dégagent beaucoup de CO2. Donc là, c'est important de comprendre, de maîtriser ces réactions pour essayer d'estimer cette quantité. Et puis le sol, la zone vadose. Et puis il y a parfois la frange capillaire et puis la nappe. Là, pour la nappe de Beauce, à l'endroit où on est, la frange capillaire, on estime à peu près 20-25 centimètres. Des fois, c'est quelques centimètres. Ça dépend de la façon dont de l'agencement des cristaux et de la porosité même un peu de la taille des fissures. Ensuite, c'est surtout les couplages. Et là, notre ambition, c'est d'essayer de rapprocher, comme vous l'avez vu par rapport au concept de la zone critique, c'est d'essayer d'avoir un vrai terrain de dialogue entre les géophysiciens, les physico-chimistes, les microbiologistes et les géologues. Et ça permet, au fur et à mesure, d'avoir des liens au niveau réflexion collective pour essayer d'avoir des interprétations, des signaux observés par différentes équipes par rapport au poids de ces signaux dans le transfert. Et puis la partie monitoring, avoir un système qui nous permet d'installer différents types de capteurs. Notamment, on a déjà installé la fibre optique, mais on va continuer à le faire. On a aussi au labo un labo de microfluidique dans lequel on introduit quelques grains de carbonate avec des micro-organismes. Et puis bien sûr, la géophysique. Et les microbiologistes aussi, on a une carotte dédiée à la microbiologie, on l'a toujours conservée dans les conditions qui nous permettent au fur et à mesure de revenir sur les échantillons de cette carotte pour essayer de caractériser les familles ou les espèces bactériennes de toute la colonne. Et puis ça va nous permettre d'avoir des données massives avec de longues chroniques, ce qui va être une vraie mémoire. Quand on aura un suivi de 10, 15, 20 ans, on va commencer à avoir une vraie mémoire et une vraie inertie pour voir comment le système, comment les paramètres, en tout cas les fonctions qu'on va suivre, vont se projeter en prédiction. Et puis là, c'est justement l'objectif scientifique ultime, c'est d'avoir un système qui nous permet d'avoir deux types de données, des données d'entrée, il en faut pour initier la modélisation, mais surtout des données indépendantes de contrôle et de vérification sur le redox, sur les fronts mobiles qui peuvent se recouvrir, qui peuvent s'anéantir ou se compenser. Donc il y a beaucoup d'effets compensatoires entre les différents fronts mobiles et puis les interfaces critiques qui permettent de décider qu'un signal va complètement se transformer ou il va être juste translaté comme il est parce qu'il est, tellement stabilisé, il va continuer à avancer. Et pour améliorer les modèles de transport réactif multiphasique. Et puis comprendre le stockage, déstockage de différents types de pollution. En gros, dans ce genre de système, on a un temps de résidence pas loin de 30 ans. Même si on arrête maintenant d'utiliser un phytosanitaire, on va l'avoir pendant 30 ans encore et il va continuer à être relargué. Et on l'a eu dans l'ICRE de Nord-Pas-de-Calais. Et on a estimé la première estimation du temps de résidence pour au temps de transfert pour la nappe de Beauce. On l'a fait avec les CFC, on l'a corroboré avec les modèles hydro. C'est 27 à 35, 33 ans avant qu'une molécule arrive depuis le sol jusqu'à la nappe. Et c'est pour cela qu'on a toujours, depuis, on a changé pas mal de pratiques agricoles, mais on a toujours de la pollution qui arrive de la zone non saturée. Et bien sûr, il y a le côté enseignement, on en parlait tout à l'heure, par rapport à la façon dont on peut moderniser un peu les formations, aussi bien au niveau ingénierie, parce qu'ils partent vite pour se déployer dans différents types d'activités socio-économiques, mais aussi au niveau recherche, pour qu'on ait des chercheurs beaucoup plus ouvert aux différentes disciplines. Et puis on a aussi cette ambition d'avoir des collaborations internationales. Ça se construit progressivement, mais on pense que ça peut être assez intéressant comme espace d'échange. Et là on a tout ce qui est les jumeaux numériques. La région a poursuivi le financement de Pivot pour 3 ans pour construire des jumeaux numériques pour chaque plateforme qui avait été financée dans le précédent programme. Donc là, on est en train de construire un jumeau numérique pour OZNS. Donc voilà, en gros, ça résume un peu aussi bien la motivation que l'état de réflexion et de construction autour de l'objet OZNS. Donc là, voilà, je vais vous passer très rapidement, si vous avez l'habitude de voir un peu comment on installe ce genre de choses. Donc là, c'est une fosse pédologique qu'on a rajoutée à côté, dans le champ, dans le côté de ici, quelque part. Et vous avez ici les techniques d'installation des différents capteurs. Donc le cœur maintenant aux ZNS, il est présenté de cette manière-là. Vous avez le forage au milieu, le grand puits plutôt, avec son bâtiment, son hangar. Et puis là, on n'a pas encore commencé à faire des forages obliques, on n'a que des forages verticaux équipés en fibre optique, dont 3 équipés en fibre optique, un piézomètre qu'on appelle aussi piézomètre nouvelle génération, qu'on voudrait équiper avec beaucoup de capteurs. On a demandé les fonds, ça va pas tarder à arriver. Donc voilà, on aura aussi des pièces ou des lésimètres dans le programme OneWater. OZNS fait partie ça doit être PC2, je pense, dans lequel on contribue avec la maîtrise des mécanismes de recharge avec les différents types de capteurs et de dispositifs d'observation. Là, vous avez différents types. Là, c'est un bouquet de capteurs américains, je pense. Il est assez cher. L'idée, c'était d'avoir des niveaux obliques pour intercepter tout ce qui se passe après à des parcours différents ici. Il va être ici. On a déjà rajouté des boucles RMP entre 11 et 5 mètres. On en a rajouté 3. Ils sont installés dans la structure même, mais on peut en installer d'autres à l'extérieur. Là, c'est pour le suivi des gaz. Là, c'est le piézomètre nouvelle génération. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'architecture avec laquelle on va fonctionner pendant les 30-40 années à venir pour essayer de obtenir le maximum de données qui vont nous servir la maîtrise de différents couplages et des mécanismes qui se passent dans la colonne aux ZNS. Voilà, c'est juste pour vous montrer un peu la partie géologique, les roches qu'on rencontre. Des fois, on peut même rentrer la main, c'est très karstifié. Avec des hydroxydes de fer, de manganèse, ça veut dire que c'est assez réactif vis-à-vis des bactéries, vis-à-vis de la matière organique. Donc, il y a des réactions redox qui se font. Voilà, c'est juste un peu la façon dont on a travaillé pour gérer les échantillons et les mesures. Donc, on a fait du radar pour chaque tronçon de 1,30 m, parce que les unités de creusement, visiblement, c'est fixé par la loi. On peut pas laisser un système ici nu de plus d'1,30 m, sinon c'est un autre type de dispositif pour le faire. Du coup, on a avancé par 1,30 m, et à chaque fois que Bouygues s'est arrêté pour stabiliser la structure pendant la descente, on en a profité pour faire des mesures radar et jusqu'à 19,30 m. Et puis, on a à peu près échantillonné 8 tonnes de roches qui sont bien référencées. On va voir après comment on a fait. Et puis, on a fait de la photogrammétrie aussi. Pareil, avec des tronçons de 1,30 m. Depuis 3 mètres, parce que dessus c'est assez friable et ça s'effondre vite, jusqu'à 20 mètres. Et là, tout est mémorisé, on va voir aussi, ça va nous aider beaucoup pour la reconstruction. Et surtout, tout est orienté, si on veut aller cibler ce niveau-là, on sait où est-ce qu'il se trouve, parce qu'il est référencé, et puis on a les images numérisées, et on va le reprendre. Et voilà, on a fini les différentes installations en mars 2022 et ça a été inauguré en septembre 2022. Avec, il y a eu la venue du président du CNRS, la préfète, pas mal d'autorités régionales et de scientifiques. Donc là, c'était pour l'installation de la fibre optique. C'est installé de cette manière-là. On a un centre d'acquisition, une sorte d'Algeco, avec une baie informatique. Pour le moment, on a la 4G. Donc, on reçoit déjà les données qui sont générées en continu. Et on est en train de ramener la fibre optique pour, cette fois-ci, pour Internet, pour avoir un système beaucoup plus, pour le flux de données, beaucoup plus robuste en transfert de données. Là, c'est pendant l'installation de la fibre optique. Vous avez en bas la fibre optique ici. Voilà les boucles RMP qu'on a installées. C'est une tisarde, et va se tenir bientôt, qui avait pris cette tâche avec les collègues BRGM. Et on les a, avec Anatoly Likchenko de l'IRD. Et vous avez ici, on les a mis dans des cages comme ça, des boîtes, pour les préserver et fixer, plaquer contre la roche, avant de mettre un fileur et puis avant de construire. Là, c'est pour le suivi des gaz. On en a installé 3, 5 mètres et demi, 10 mètres et demi, 15 mètres et demi. Et pour descendre, quand on reste 3-4 semaines sans rentrer, il faut laisser aérer au moins une heure et demie. Et on le voit par rapport à ces capteurs. Donc, il y a un intérêt déjà au niveau sécurité pour vérifier qu'il n'y a pas de méthane, qu'il n'y a pas d'H2S, mais surtout de monoxyde de carbone. Et dès qu'on est les 20% à peu près d'oxygène, et on a une ventilation qu'on lance à chaque fois avant de descendre pour s'assurer que tout est équilibré vis-à-vis de l'atmosphère externe. Donc, on a toute une démarche, ça c'est essentiellement, pourquoi ça passe vite, pardon. Donc, il y a une démarche de numérisation assez performante depuis la photogrammétrie jusqu'à l'analyse par tomographie pour essayer d'avoir un workflow d'intégration de différentes étapes pour circonscrire les différentes propriétés pétrophysiques notamment. Donc là, voilà comment ce que la photogrammétrie nous a permis de reproduire. Donc là, c'est des images. On a pris à peu près 5000 images pendant la 6000, pardon, pendant le creusement. Et là, c'est le fait qu'on les a tellement bien référencées qu'on voit même pas la différence entre les différentes images. Il n'y a pas de saut. C'est parce que c'est en fait, on rentre leurs références et puis sont mises automatiquement l'une après l'autre, aussi bien en cercle, 360 degrés, qu'en profondeur. Et donc, ça nous permet d'avoir ce genre de structure numérique. Et là, on a une thèse qui vient de démarrer en novembre sur ces montages. Il va exploiter, il va faire beaucoup d'allers-retours entre les carottes, l'analyse des carottes, et puis la construction, l'affinement de ce montage dans le cadre du jumeau numérique. Donc, c'est la région qui cofinance cette thèse. Donc, c'est une vraie opportunité. On a encore des financements pour l'instrumentation jusqu'en 2026. C'est un projet en CPER, région centre. Progressivement chaque année, donc c'est échelonné sur 7 ans. Donc là, on va terminer, on va épuiser ce stock de financement avec déjà des équipements fléchés, mais on peut les adapter toujours, c'est parce que ça peut évoluer au niveau réflexion, mais aussi qualité qu'on demanderait. On a à peu près on a creusé 9 forages et on a un qu'on va faire bientôt. On avait un forage central qu'on a sacrifié, c'était juste pour garder la mémoire, mais tout est carotté, donc on a les carottes toutes préservées et conservées. Et après, l'idée c'était d'aller avec les différents types d'analyses. On a eu un projet européen et nous, on n'a pas, qui nous avait aidé pour avoir une sorte d'analyse pétrophysique et minéralogique assez originale de Thermo Fisher, mais on n'a pas abouti la démarche. C'est le Covid qui nous a un peu, on pouvait plus bouger, donc les échantillons, et puis le temps du projet avançait. On avait commencé, c'est vraiment assez intéressant. Donc, ça, l'ambition, c'était de regarder la minéralogie, la chimie, mais aussi la propriété. À chaque fois, comme ça, on scanne les carottes. Donc, on a une qui a été scannée, mais à l'avenir, on va refaire pour essayer d'avoir cette technique, déployer cette technique sur toutes les carottes. Et puis, les challenges, c'est assez compliqué. C'est un système karstifié, fissuré, parfois altéré, et même transformé en minéralogie. Mais néanmoins, je pense avec toutes ces contraintes, on va pouvoir dégager les chemins réactionnels, la façon dont le système s'est mis en place, mais surtout comment il va évoluer selon les contraintes, aussi bien d'exploitation agricole que d'irrigation et naturelle de changement climatique. Si on change de, on a une thèse aussi sur la géothermie et qu'on a mise sur la, pour voir l'inertie thermique. Où est-ce qu'on la, on la voit? Où est-ce qu'on la trouve? Et elle est avec le BRGM parce qu'ils ont une plateforme géothermique. On compare les deux avec la les données de la fibre optique du site pour essayer de stabiliser, développer un modèle d'échange thermique de cette partie-là. C'est lourd. Donc voilà, ça nous permet de le fait d'essayer d'affronter ces challenges, ça nous permet d'avoir de nouveaux concepts pour développer des modèles de management de ce genre d'aquifère complexe et avec les différents impacts ou ce qu'on appelle les aquifères sous stress. Et on commence à construire le jumeau numérique et après on passe sur tout ce qui est intelligence artificielle, le deep learning, ainsi de suite. J'agis lentement. Je ne sais pas pourquoi.
Il y aura peut-être une vidéo après.
Il y a une vidéo, je pense, mais bon, elle est intégrée. Ok, on va faire comme ça. Ok. Je pense qu'elle craignait la vidéo. oui, donc c'est planifié pour 2025 par rapport aux cellules mésimétriques. Donc on est déjà en train de faire des devis, de voir quelle est la technologie la plus performante. On a identifié un fournisseur allemand qui fournit des capteurs, des électrodes EHPH, visiblement assez résistantes et assez stabilisées pendant 2-3 ans. Et c'est un peu cher, mais c'est pas du tout, ça vaut la peine par rapport aux ambitions du projet d'en mettre pour avancer sur ça. Ah oui. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer d'installer en surface à côté. L'idée, c'était d'avoir quelque chose qui se complète en info. Et pour ce que je vous disais, dans le projet, en tout cas la plateforme, elle est identifiée comme étant un living lab pour OneWater pour la recharge, pour quantifier ou maîtriser les processus de recharge de la nappe avec l'ensemble des composantes qu'on a vues en introduction. Juste quelques résultats géophysiques, la plupart d'entre vous peuvent les interpréter mieux que moi. Moi, c'est juste les collègues géophysiciens qui m'ont fourni ça. Donc, c'est par rapport à la densité de fracture. Mais c'est des résultats qu'on a commencé à mettre en forme il y a quelques mois. Et pour votre info, on a un postdoc qui a démarré là, lundi, pour avancer sur l'interprétation des données géophysiques. Donc vous avez les différentes l'interprétation, différentes couches par rapport aux ondes V, et vous avez comment ça se présente. On a aussi les teneurs en eau. Et là, les teneurs en eau, ils sont assez concordantes avec les observations qu'on a, parce qu'on avait une carotte aussi qu'on a préservée pour les teneurs en eau dès les échantillons même, lors du creusement, mais une carotte, les deux. Et vous allez voir, ça donne des choses intéressantes sur les teneurs en eau. Et la géophysique a été un peu épaulée par ces données pour affiner l'interprétation. Donc là, c'est le radar avec différents types de dans les différents forages. Et voilà, là, c'est publié, c'est la modélisation, la répartition de l'eau dans la colonne. Et les représentés par les différentes courbes, et on a les différents modèles. On a ajusté pas mal de paramètres pour épouser la forme qu'on mesure, et c'est assez intéressant. Donc on va partir, donc pour les futures interprétations géophysiques, on part du modèle qui reproduit au mieux les mesures. Donc les mesures, c'était des échantillons qu'on a pris lors du creusement, mais aussi on a dédié un forage à l'analyse des teneurs en eau. Donc voilà ce qu'on a retenu comme modèle de fonctionnement. On a une tendance à stabiliser une nappe perchée, et ça intéresse beaucoup notamment les collègues de l'INRAE, parce que ça leur, à chaque fois, ils voient des petits déversements d'eau à la surface, alors que le niveau piézométrique, il est assez bas. Et là, visiblement, il y a un niveau très imperméable ici qui stabilise différents, ça dépend des hauteurs, des fois c'est quelques centimètres jusqu'à presque un mètre. Et on l'a vu quand on a creusé le puits, on est rentré dans des flaques d'eau à un moment donné, alors que la nappe est encore très basse. Et le modèle, avec les données qu'on a, permet de la reproduire. Sinon, donc là, c'est des projections pour vous un peu par rapport à la façon dont on pense pouvoir aider à obtenir des données originales. C'est typiquement le devenir des nitrates. Donc, on a un réseau de réactions qui vont se faire, qui vont se déclencher avec l'activité microbiologique pour tout ce qui est nitrification, dénitrification dans un champ agricole. Et là, c'est typiquement ce qu'on va faire avec les collègues de l'INRAE. Eux, ils ont la partie sol, et nous, on regarde qu'est-ce qui échappe à cette partie-là, et pourquoi, dans ce que je vous disais, c'est presque 80, à peu près 80, 85 milligrammes litres de nitrate qu'on a à l'endroit de Vélomblain. Donc là, vous avez différents types de stockage, de façon d'évoluer. Et surtout, on a des réseaux de réactions qui se font avec les micro-organismes ici. Et c'est des réactions redox. Je vais vous montrer comment c'est. Voilà. Les réactions, en fait, c'est deux. On a des accepteurs d'électrons et des donneurs d'électrons. Tout le sous-sol, il est fabriqué, il est fait de cette manière-là. Les accepteurs d'électrons, c'est tout ce qui est oxygène, les nitrates, et ainsi de suite. Et les donneurs d'électrons, c'est la matière organique, la pyrite, les métaux réduits. Et typiquement, pour les nitrates, on va devoir transférer 8 électrons. Ce qui est important à noter, que chaque électron nécessite une famille de bactéries. C'est pas les mêmes. C'est pour cela que c'est une sorte de symbiose entre les bactéries. Et le système peut bloquer si on manque d'une espèce ou d'une famille de bactéries qui permettent de faire le travail. C'est pour cela qu'on a des cas où la cinétique est bloquée du fait que les bactéries ne sont pas présentes ou ils se développent pas bien. Ça, c'est vraiment intéressant. On a la même chose pour le manganèse. C'est pour cela que je vous ai montré, quand je vous ai montré les différentes surfaces rougeâtres, noires, noirâtres, c'est un mix de manganèse et du fer oxydé ou réduit. Donc voilà, le challenge vraiment, c'est celui-là. On a un déséquilibre redox quasiment tout le temps quand on a des systèmes réactifs comme ça. Là, c'était un cas particulier de drainage minéacide avec l'arsenic, le fer, l'azote et le soufre. Et vous voyez ce qu'on mesure, c'est la droite ici, c'est cette courbe-là. Avec, elle est moyenne par cette droite, si elle est mesurée, c'est ça. Et ce qu'on calcule, on est à redox, c'est ça. Donc, on est loin de l'équilibre. Et c'est ça ce qui est là, ça ne peut marcher que si on a des paramètres pertinents au niveau cinétique. Sinon, on va avoir un système complètement, en modélisation je parle, complètement trahi par un équilibre thermodynamique qui n'est pas effectif. Et donc, les efforts qu'on va mettre, déployer, c'est pour maîtriser ou développer même des bases de données cinétiques redox. On a déjà commencé, donc typiquement, on va, qu'est-ce que ça veut dire? Là, c'est l'équilibre. Vous avez des équilibres entre les nitrates, les différentes espèces de l'azote jusqu'à l'azote gaz, N2. Là, c'est ce que fait la base de données thermo qu'on avait développée, qu'on a développée au BRGM, et qui continue à être développée. Et vous avez la spéciation. Quand c'est l'équilibre, ça suffit. Mais quand c'est pas l'équilibre, il faut casser ces liens et rajouter la cinétique. Et c'est ce qu'on va faire grâce à ce qu'on aura à acquérir sur OZNS et les systèmes de surface de façon générale pour pouvoir simuler les étapes qu'on a vues en introduction de ces processus redox. Pour le soufre, pareil, et ainsi de suite. Donc voilà, je ne vais pas détailler, c'est juste pour vous signaler que pour simuler ce genre de système, on a des donneurs d'électrons avec le D, des accepteurs d'électrons avec le A, et on a l'adénosine diphosphate sur lequel on va coller un phosphore pour avoir l'ATP, qui est en fait la nourriture préférée ou même unique des bactéries. Ce qu'elles cherchent, c'est d'emmagasiner l'énergie sous forme d'ATP pour qu'elles puissent l'utiliser par la suite. Bon, là, c'est des approches qu'on a de cinétique. Vous avez ici la constante cinétique, la biomasse, une fonction de donneur d'électrons, une fonction des accepteurs d'électrons et une fonction thermodynamique qui rationalise l'ensemble et qui matérialise ici l'écart à l'équilibre. Et donc là, c'est des vrais efforts qu'il faut déployer au fur et à mesure pour enrichir ces bases de données et maîtriser cette cascade de réactions, ce réseau de réactions. Et je pense que la géophysique va les voir quelque part si elles sont massives et si elles s'expriment par rapport à des endroits où il y a beaucoup de milieux d'activité microbiologique, physico-chimique aussi, et les modèles, normalement, ils sont outillés pour pouvoir les prendre en compte. Après, ils ne deviendront effectifs que si on a les paramètres pertinents pour les différentes étapes qu'on vient de voir. Ça doit être, là, c'est la fin. Donc voilà, en gros, vous avez un système assez complexe, et pour les jumeaux numériques, on a déjà commencé, on a une thèse qui commence à structurer les données de cette manière-là. Et là, ça va aider la géophysique, ça va aider la géochimie, ça va aider l'ensemble des disciplines à avoir cette référence de construction sur laquelle il faut continuer. Je pense que c'est la même, je ne me souviens plus. Oui, ça doit être la même que la précédente. Donc, il y a un petit, voilà. Ça, c'est la surface qu'on a ici. Et ce que les collègues géophysiciens ont essayé de faire, c'est de raccorder les données du radar à ces niveaux-là. Et visiblement, ça a l'air de coller pas mal. Ils sont en train de rédiger un papier sur l'exploitation de ces données. Et vous avez ici les balises qu'on utilise pour référencer. C'est à peu près un centimètre près. On est très précis vis-à-vis de la position de chaque type de structure géologique sur la colonne de 20 mètres. Bon, voilà, c'est l'essentiel de ma présentation. Et je vous remercie.
Merci beaucoup. Question.
Oui, c'est les gens.
C'est qui les principaux collabos avec qui vous collaborez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des grands réseaux, etc.
Oui, les principaux, en fait, c'est Métis. que tu connais, Damien, Montpellier, avec Philippe Pesard, qui a fait, voilà, et avec, comment s'appelle, l'autre de géochimiste, c'est avec eux, comment s'appelle
C'est là.
Hein
Aix-en-Provence
Pas, non, on n'a pas encore Aix-en-Provence.
À Montpellier.
On a Montpellier, aussi, les collègues de Montpellier. Surtout là, au fur et à mesure, on fait évoluer les collaborations vertes, tout ce qui est couplage et transport réactif, mais là, on a vraiment beaucoup d'intérêt. Il y avait une boîte finlandaise, je pense, ou australienne, qui avait fait la diagraphie. Ouais, c'est exactement. Ouais. Et quoi d'autre? Et après, on a des collaborations avec la Finlande, avec GTK, un peu le service géologique finlandais. On a des collaborations avec la Norvège, c'est un labo qui travaille beaucoup sur les carbonates pour les pétroliers. Et puis les États-Unis, Clemson, Berkeley, pour le moment. On a 4 thèses en cours et 3 postdocs. Et 2 enseignants-chercheurs qui font partie de cette équipe. Et puis le Bergen. On a 6 ou 7 collègues bergéens, avec le découpage que tu sais, avec une fraction de temps d'intervention, mais surtout pour la géophysique. Donc, voilà.
La géologie de l'intérieur de l'OZNS est la même que celle de l'extérieur?
On suppose qu'elle est la même.
Des choses de Dijon, mais c'est avec la même séquence.
Tout à fait. Et des fois, on a des surprises parce qu'au fait, même pendant la préparation du creusement, on avait une sorte de boucle. C'était avec Clara, qui avait fait les mesures, et qui était là où on avait déjà fait 3 forages. Et ça nous a paru tellement étrange, on pensait que c'était du remblé, en tout cas, au fur et à mesure, les collègues géophysiciens disent non, c'est jamais quelque chose de continu. Donc on s'en est écarté, on s'est déplacé de 15 mètres pour échapper à ce point singulier qu'on ne comprend pas bien. Mais après, généralement, c'est le même. Il y a, par rapport à la carstification, il y a ces poches qui sont plus ou moins ouvertes, et puis on a de la silice. Et là, ça intrigue tout le monde. On a en dépassant 16-17 mètres pour les sédimentologues. On ne devrait pas avoir de silice là, mais on en a. Donc, ils disent soit que c'est accumulé par rapport à l'altération des graminées, parce que les graminées concentrent la silice. Et pour avoir la silice à des concentrations élevées, précipitées, c'est des mécanismes très particuliers. Et quand ils ont foré, quand ils sont arrivés quand ils ont creusé sur des dalles de silice, leurs équipements n'étaient pas dimensionnés pour percer la silice, donc ils se trouvaient avec des fois passer 2 heures pour casser un petit ruban de silice.
Les parois sont semi-perméables, vous avez des échanges horizontaux ou
tout
passe par le fond?
Là normalement tout passe par le fond. On a creusé sur 6,20 m et on a rajouté un filaire, je ne suis pas sûr qu'elle est efficace à 100%, qui était censé avoir une perméabilité au moins équivalente à celle du claveau, celle de la roche. Mais on voit qu'il y a un peu d'eau qui commence déjà à arriver du fond. La nappe, ça n'a jamais été aussi élevée depuis 6 ou 7 ans que maintenant. Donc c'est bien, ça se recharge bien. Et on est à 18 mètres. Alors qu'avant, heureusement, ça nous a aidé pour le creusement. Peut-être on est rentré dans la partie basse. Mais là, ça monte, c'est parfait. Pour nous, pour au niveau scientifique, c'est exactement ce que vous voulez. Mais on voit pas, quasiment pas de, oui, il y a pas d'humidité sur les parois pour l'instant, même si on est sûr que la nappe il est à 18 mètres, mais on voit rien. Il faut descendre au fond pour avoir une petite flaque de 5 cm, donc qui vient du bas.
Comment faites pour descendre?
On a une sorte d'échelle. Ouais, il faut que ce soit 10 jeunes qui descendent. Mais on est quoi, 20 minutes un quart d'heure, parce qu'à chaque fois, il faut ouvrir. Puis, il y a un système de sécurité qui était... Là, on est en train de valider le système de sécurité. Il faut toujours avoir une personne. Il y a juste les pompiers qui ne sont pas encore passés. Tout le reste, on l'a rédigé. Et CNRS, les gens de la sécurité du CNRS, ils connaissent, ils nous ont dit avec ça. Juste, on valide avec les pompiers, mais en principe...
C'est les puits dans la paroi, les puits principales.
Voilà, ici, une sorte d'échelle comme ça, qui est sur une façade, à l'opposé de la ventilation. Et puis à chaque fois, on a 7 niveaux. on ouvre. Quand on est sur un niveau, on peut faire ce qu'on veut, ça résiste. Et en fait, je ne suis pas sûr que ça soit visible avec ce que j'ai montré. Il y a des. Comment ils l'appellent ? Ils les appellent. Du courbeau, ils les appellent. En fait, il y a une sorte de claveau un peu particulier qui permettent, qui sortent un peu de, je sais pas, 15-20 cm pour pouvoir tenir le toit du niveau en bas. Et on a un portail, une porte à ouvrir pour passer à chaque fois, mais avec la même échelle, le même niveau.
Le fluide humain est vide.
Il est libre, il est vide, oui. Voilà, là, ce qu'on a fait... Non. Là, en fait, quand ils ont construit le bardage en descendant comme ça, c'est 1,30 m à chaque fois, c'est balisé par ces indications. Donc là, on a quasiment à moins d'un centimètre, on s'y revient ici, maintenant, on sait où est-ce que ça se trouve. Et là, en descendant, ils ont construit progressivement, et quand ils ont construit, ils ont fait l'inverse. Ils enlèvent en bas, ils laissent ça, et ils construisent, et puis ils ont installé une sorte d'échelle qui va du haut jusqu'au fond pour aller à
un niveau balcon, en fait.
C'est des sortes de balcons, et tu as accès à la totalité, à part la partie où on a la ventilation qui est collée comme ça, et tu peux creuser à tout moment.
J'y suis jamais allé depuis que c'était.
Ah, c'est.
Il n'y a pas des appareils, on discute, mais il y a des espèces de groupes sur lesquels on pourrait faire de nouveaux voies, je crois, pour accéder à la roche qui est derrière.
On a déjà des devis, des machines. En fait, on a beaucoup échangé avec l'Ombra, on a visité le labo souterrain de l'Ombra, et ils nous ont même donné les noms des fournisseurs. On a des devis. On peut créer des forages d'une dizaine de mètres en latéral. On peut en prélever, on peut installer d'autres capteurs, on peut. Oui, c'est très bon. Et même, je peux te donner le prix, c'est 60 000 euros pour une semaine. Voilà, donc il faudrait vraiment mutualiser l'ensemble des demandes et les faire venir pour une semaine. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait pareil un workshop et puis même des labos partenaires qu'on regarde quels sont les capteurs. Installé, et on pense le faire en 2026, faire une première famille de forage latéraux.
Dans vos modèles de chimie, vous avez mis de la catalyse hétérogène ou des choses comme ça?
Non, ce
qu'on... La surface de vos minéraux joue un rôle dans les réactions chimiques que vous regardez. Vous comptez entre des espèces en solution.
Non, tout se passe entre les espèces en solution. La seule chose qu'on a fait, on a ce qu'ils appellent le ciment bas pH. Il y a un ciment maintenant, apparemment, qui se développe de plus en plus. C'est les pétroliers, surtout, c'est très cher, mais c'est ce qu'ils ont mis. Mais c'est des petites quantités, en fait. C'est du joint de ciment. C'est le pH, il est de 10, 9, 50, 10, 9,5, pardon, 10, alors que le pH d'un béton qu'on a partout, il est de 12, 50. Donc, pour ne pas avoir un stock de H autour qui fausserait les réactions, on a essayé de réduire. Et le pH de l'équilibre de toute la nappe de carbonate, donc, il est de 8,5. Donc, on a encore une unité et demie, deux unités. C'est mieux que 4 unités pH. Mais on n'a pas mis d'autres choses. Et puis, on n'a pas mis de ferraille, à part les boulons pour toute la structure. C'est des synthétiques, des fibres de verre. Et qui sont fabriqués, qui ont été fabriqués en Italie.
Oui,
même au niveau magnétique par rapport à la géophysique. Pour qu'on puisse. Et là, on a un projet, on est dans un projet européen sur ce que je disais tout à l'heure, sur la gravimétrie quantique. En principe, on va recevoir 3 gravimètres déployés, 2 dans la colonne et 1 de référence qui serait à 200 mètres.
Merci.
Le modèle, tu avais montré un modèle où, pour la teneur en eau, c'est quoi comme modèle?
C'est Idrus. Idrissi, on a utilisé Idrissi.
Je me demandais même dans la partie de méditation à terme, parce que l'objectif c'est aussi d'arriver à voir la création d'azote.
Tout à fait.
De nitrate, et typiquement de l'azote, il faut pouvoir simuler, enfin, pouvoir simuler la phase gaz.
Oui.
Donc il faut simuler l'équation des tendances pour le gaz, pour qu'on en parle, pour avoir un bilan.
Je n'ai pas montré, on a déjà un modèle qui fait les deux. Et qui simule les gaz qui reviennent dans notre sens quand ils sont mixés par rapport à l'atmosphère et le besoin d'oxygène qu'il arrive à faire parvenir la partie réactive. Donc on a un modèle qui est avec Montpellier justement sur la réactivité des gaz dans les sols et la colonne.
Et là, tout ce qui est modélisation, hydratation des minéraux et de fabrication de l'eau, en fait, de consommation de l'eau, c'est pris en compte aussi.
Oui.
Parce que ça, c'est
oui, je connais pour l'Ondra, c'était une histoire. L'homme des pétroliers. Oui, tout à fait. Nous, là, on a, normalement, au Juvéchimé, on a un peu les concepts les plus avancés en termes de mécanique. Même si on manque cruellement de paramètres, notamment cinétiques. Parce que ça, c'est notamment pour la microbiologie. On a quelques valeurs comme ça, mais très, très conditionnelles sur des conditions très particulières. Donc ça veut dire que progressivement, il faudrait qu'on ait des thèses et des mesures là-bas.
Est-ce que vous avez une idée un peu de l'incidence des activités agricoles sur les différentes strates du sol ? Vous dire, ces activités-là ont impacté la microfaune ?
Non, pas encore. Là, ils sont assez coopérants, ils nous donnent les infos de tout ce qu'ils font, et ça, c'est vraiment un avantage, parce que des fois, ils sont... Mais là, ils nous donnent tout, mais nous, là, si vous faites le T0, il est récent pour nous, et on ne sait pas trop, je pense qu'il faut le voir au fur et à mesure, quand on aura beaucoup de forage oblique, de mesures sur toute la colonne, voir qu'est-ce qui a fait des sauts ou des changements drastiques ou de la réactivité ou de devenir de ces polluants. Là, pour le moment, on commence à comprendre le fonctionnement des transferts, mais au fur et à mesure, je pense dans quelques années, quand on aura des premiers modèles qui le permettent d'avoir une vraie maquette qu'on va nourrir progressivement. Mais là, on est au début. Les bases de données sont assez avancées, c'est ce que je vous disais. On va casser les liens entre les équilibres pour ne pas rester dans le... Parce qu'on casse tout, on le voit tout de suite. Tout de suite, on n'est pas réaliste quand on met juste l'azote au mur. On voit qu'on est loin de ce qu'on observe. Donc, ce qu'il faut, c'est les contraintes cinétiques pour pouvoir. Et ça devient compliqué, mais on a les modèles qui savent faire. On les a. Après, c'est les calculs, les couplages. Voilà, donc vous êtes les bienvenus pour visiter, même proposer des sujets de recherche. C'est un peu ce qu'on cherche, c'est d'avoir des partenaires par rapport aux différentes disciplines. Et j'ai oublié d'en parler, je pense que dans au moins la fin de l'année prochaine, ou 2026, on organise un grand workshop autour de ZNS. Pour essayer de... Là, ce qu'on essaie de faire, là, on a pas mal de thèses et de postdocs, on essaie d'amplifier un peu la production scientifique pour le rendre encore plus visible et surtout de faire un objet d'intérêt pour la communauté.
On est toujours de... Donc là, c'est une méga carotte.
Ouais.
Très bien documentée, etc. Mais pour le suivi des différents paramètres aux différentes profondeurs, c'est quand même beaucoup dans les piézomètres autour avec différents capteurs possibles. Un des gros intérêts, nous, c'est de pouvoir faire des forages horizontaux. C'est ça qui est quasiment unique.
Tout à fait. C'est vraiment ça, l'esprit et même les efforts, parce que c'est là.
Au début, quoi, il y a maintenant qu'il est là, il faut s'en servir pour.
Tout à fait. C'est vraiment pour essayer d'accéder à 360 degrés à toutes et chaque fois. Je pense qu'il faudrait qu'on ait une sorte d'évaluation scientifique de chaque étape pour dire bah, maintenant il faut forer comme ça. Maintenant, par rapport à ça, au fur et à mesure qu'on identifie les indéterminations, on passe à l'étape d'après avec un peu ce que font les gros projets internationaux, c'est-à-dire avoir un consensus sur l'étape future et de prioriser pour faire que ce qu'il faut, parce qu'il faut préserver aussi la structure, c'est ce que je dis. Il y a Bouygues, au départ, ce sont des fournisseurs, donc on les a payés pour faire. Après, ils ont plein d'idées à tester. Ils m'ont dit, nous, ce qui nous semble intéressant, c'est de faire des contraintes, voir comment en fait, ils ont des problèmes, ce qu'ils appellent les problèmes de convergence. Ah, je dis, surtout pas chez nous. Moi, je ne veux pas toucher, ce n'est pas un site expérimental. Là, c'est dommage parce que nous, ça, c'est un vrai débat chez nous. Mais je pense qu'au fur et à mesure, il faudrait, comme tu dis, c'est pas du tout provocateur, c'est vraiment comme ça qu'il faut travailler pour utiliser son l'agilité qui nous permet. Il est exceptionnel. On peut faire d'autres licences. Et même là, avec le bouquet de capteurs, c'est cher, c'est 75 000 euros l'unité. On a prévu d'en faire deux, d'en mettre deux, trois. Et ça permet de récupérer une colonne de 2 mètres, tout ce qui se passe, aussi bien au niveau composition chimique de l'eau, au département neuronaux, avec les capteurs, les bougies pour rouge. Donc, c'est 7 ou 8 capteurs dans un seul bouquet. Et on est en train de négocier avec eux.
On a différentes distances.
Voilà, c'est ça. On regarde ce qu'on intercepte ici, quand est-ce qu'on intercepte ailleurs, au fur et à mesure. Et ça, je pense que ça va être assez intéressant.
Il y a très peu de
sites
qui sont sur les écoulements sont principalement verticaux, là.
Oui.
Au milieu de la hausse.
Jusqu'à la frange capillaire. Frange capillaire, on ne sait pas, mais avant la frange capillaire, oui, elles sont. Je vois, c'est à fait des zigzags parce qu'il y a des endroits assez plus carstifiés, mais sinon c'est vertical. La moyenne est verticale. Par contre, la frange capillaire, c'est un grand mystère. Des fois, ça part très très loin. Il y a certains avec des traceurs, ils ont démontré. C'est pour cela, tout à l'heure, avec la plaque comme ça, je pense que ça vaut le coup. J'avais vu ça pour la frange capillaire. Il la suivait parce qu'en fait, la frange capillaire, c'est saturé en eau, mais sous saturant pression. C'est-à-dire, c'est de l'eau qui flotte. Le niveau piezométrique, il est là, on met de l'eau ici, et on laisse voir combien ça monte au-dessus du niveau piezométrique. Et c'est vraiment intéressant, c'est riche en oxygène. C'est plus riche en oxygène que l'environnement, que l'eau normale. Et la réactivité est différente. Et par contre, elle est homogène, tous les signaux sont homogénéisés. On injecte un traceur ici, on le trouve ici. Donc, c'est apparemment une zone dans laquelle l'eau percole latéralement pendant longtemps avant de pénétrer. Oui.
Quelle était l'idée derrière l'installation des isomètres en surface qui est très différent du reste, quoi.
Tout à fait, c'est surtout pour essayer de voir cette partie-là qu'on ne maîtrise pas à l'esto. La partie sol, qui est vraiment le domaine de l'INRAE, on a bien sûr des labos CNRS qui maîtrisent aussi, par rapport à la complémentarité entre la partie intègre déjà, parce que maintenant, comme on a, François a raison, on a déjà dégradé pas mal de choses, on a forêt, précis, et donc il faut avoir un système qui est unitaire, parce que les cellules isométriques, leur intérêt, c'est d'avoir une unité de raisonnement qu'on suppose intègre, c'est-à-dire qu'on n'a pas. On enfonce, on le surélève pour qu'on puisse mettre des capteurs, mais surtout cette partie-là. Et nous, même au niveau photogrammétrique, on n'a pas pu la prendre parce qu'il est chaotique, il est très mâché. Et puis ça,
il est au premier mètre de sol, quoi.
Oui, ça s'effondrait. Oui, qui avait été obligé de mettre une sorte de boucle de béton. Pour être sûr, parce qu'ils nous ont dit, on leur a dit, ne faites pas ça. Ils nous ont dit, nous, si on n'a pas ça, on ne sait pas travailler. Voilà, donc on leur a dit, clair. Ils l'ont enlevé après. Et du coup, là, on n'a aucune info ni maîtrise sur cette partie-là. On voulait avoir des cellules désimétriques pour pouvoir récupérer cette partie-là. Et on la connecte au raisonnement avec le reste des infos qu'on acquiert sur la colonne.
Après, s'il y a des projets, il faut percer à l'horizontale. Pour mettre des capteurs sur 10 mètres de profondeur, il faudra presque mettre à la verticale
d'un millimètre.
Une case millimétrique.
Tout à fait.
pour les deux premiers mètres de sol.
Oui, pour avoir la continuité de la fond. Oui, non,
ça,
non,
ça complique le jeu d'aller passer partout en étoile comme ça sur 10 mètres de long.
Non, mais les et là, ça se voit pas beaucoup. En fait, on a contracté sur un périmètre de 2400 mètres, mais on l'aura rendu là tout à l'été, à part là où il y a le, on l'a rendu à l'agriculture parce qu'on veut qu'il vienne le plus proche de nous pour continuer à faire comme si on n'était pas là. Donc là, il cultive, il avance et puis on se concerte beaucoup. Il nous dit, ah oui, nous, on la récolte sur le 25, on va labourer le 15 octobre, des choses comme ça. Ils nous donnent, et surtout, ils nous donnent les volumes qu'ils ont prélevés d'irrigation et puis les quantités de pesticides qu'ils ont mis, d'herbicides.
D'un ordre de la France, c'est plus beaucoup.
En fait, le plus bas, c'était au...
Moi, à un moment donné, sur le profil de teneur en eau, il y avait, je ne sais pas, 12 mètres le plus haut et 20 mètres le plus bas.
C'est 16. Le plus haut qu'on a connu, c'est 16 mètres. L'autre, c'est même si c'est parce qu'en fait, c'est la structure pétro qui permet d'avoir une teneur élevée, mais pas le niveau de la. C'est toujours pas saturé. Ouais. Toujours la part. Mais par contre, on peut avoir un niveau saturé jusqu'à 16 mètres, moins 16. C'est-à-dire qu'on aura 16 mètres de zone non saturée, le reste. Et le plus bas, c'était en 93, et c'était 23 mètres, moins 23 mètres. Et là, on était pendant, même avant les travaux, ça descendait pas mal, et on était à 19,50 pendant en 2022, quand on a fini.
Dans une année, c'est 2 mètres en fluctuation
ou... ah, c'est à peu près, mais c'est pas régulier. En fait, ça fait une évolution très lente depuis les années 70, et ça, on a des creux, le plus bas, c'est 93, et après, ça fluctue comme ça, et c'est pendant 3 années précédentes, on était sur une dérive. Et là, ça reprend, ça retrace. On est à 18, on est à 18. Avant 2-3 jours, parce qu'on reçoit les données tous les jours, on était à 18-20. Donc, ça monte vraiment. Là, ça se recharge bien.
Et le fait que ça ait baissé comme ça pendant 20 ans, c'est l'exploitation.
Il y a, je pense, une combinaison entre l'exploitation et puis des fois par rapport à la sécheresse, parce que là même, ils n'ont pas changé l'exploitation, mais comme il y a beaucoup de recharge, il a bien plu. Ben, on a réussi à avoir un bilan plus favorable. Mais par contre, oui, de l'exploitation, on le voit, c'est la nappe de Beauce, quand on rentre dans les champs, on voit, ça pompe partout. Et surtout, c'est du maïs, c'est de l'agriculture qui demande beaucoup d'eau. Du colza. Là, cette année, ils ont cultivé le colza en tout, mais ils irriguent beaucoup.
Ok, merci.
Merci à vous. Mais c'est complémentaire et je pense que ça moi en tout cas l'intérêt qu'on veut offrir à la communauté, c'est d'avoir un système comme ça.